si tard. Même le sourire de celle dont tu regardes le
U. Radio G, 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elle les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Je connais des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Ils sont fatigués, quoi. C'est dur. Ils voient plein de gens qui n'arrivent plus à trouver leur air, les foutent sous respirateur, ils ont des périodes comme ça dans l'année où ils vont voir 10 fois plus de cadavres que ce qu'ils ont vu, ils sont fatigués. La majorité du corps médical nous dit quand même, s'il vous plaît, faites un effort, vaccinez-vous. Prenez des précautions dans le mois qui va venir, évitez de bricoler quoi, évitez de vous couper un doigt, de vous casser une jambe, parce que il est possible qu'on ne puisse pas vous soigner correctement. C'est un crève-cœur de dire ça. Les anesthésistes réanimateurs sont en train de mettre en place des protocoles de tri. Quand on va se retrouver avec des tas de gens et qu'on n'aura pas les lits, on va faire des degrés de triage. Leur boulot, c'est de sauver les gens. Quand ils voient le flot de non-vaccinés dans les lits de réanimation, je pense que ça les tue, quoi.
Bah oui, en ce début d'année 2022, on a entendu des soignants de l'hôpital public qui en ont marre des non-vaccinés qui viennent encombrer des lits qui pourraient être utiles à d'autres. Même si le gouvernement est coupable d'avoir supprimé des milliers de lits et de postes, les non-vaccinés ne font qu'empirer les conditions de travail des personnels hospitaliers qui étaient déjà à bout de souffle avant l'épidémie. Et chose qui vous a été confirmée dans une précédente émission par Anita, infirmière urgentiste, la plupart des malades de la Covid en réanimation ne sont pas vaccinés. Et aujourd'hui, c'est pas un soignant de l'hôpital qui témoigne à ce micro, mais mon pote Jean-Baptiste, qui est pharmacien dans mon quartier. Et qui vient pas nous faire une conférence et encore moins une séance de propagande. Non, avec Jean-Baptiste, on est juste entre potes, autour d'un café, et on discute de tout ça pendant une heure, entre potes donc. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off, bienvenue à notre table. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Jean-Baptiste, je suis ravi qu'on se retrouve autour de ce micro. Tu es pharmacien, la personne qui m'a vacciné à la pharmacie de mon quartier. Et puis ma foi, on est devenus potes.
Techniquement, je pense qu'on peut dire ça.
Donc loin de moi l'idée de vouloir faire une conférence sur les mérites de la vaccination. Je voudrais simplement qu'on offre aux copains, aux copines qui nous écoutent une conversation entre amis au sujet de ce qui se passe et de ton analyse. Pour vous raconter comment ça s'est passé, comme beaucoup de gens, j'attendais de voir. Parce que sur les vaccins, on n'a pas de recul. Quand ils se sont mis dans les médias dominants à parler du Spoutnik, je me suis dit, comme pas mal de gens, « Oh là là, ils ont réussi à développer un vaccin en peu de temps. C'est un petit peu suspect. » Et donc, j'ai attendu un peu que les autres y aillent. Et puis, je me suis mal débrouillé aussi, parce que la demande de Macron qu'on se vaccine tous est tombée comme un pavé dans la soupe, machin. Je me suis laissé déborder par le résultat. Je n'ai fait ma deuxième injection qu'à la fin de l'été. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Dans le petit cabinet où tu m'as vacciné, on a lié conversation et puis j'ai dû dire un truc du genre « Je crois que les complotistes qui disent que les vaccins sont pleins de nanotechnologies de droite au service du pouvoir ont raison. » Parce que à ma première injection, au bout de 5 minutes, j'ai commencé à trouver Macron plutôt sympathique. Et au bout de 10 minutes que tu m'avais vacciné ma deuxième injection, je me suis dit « Ah, c'est sûr, aux prochaines élections, je fais barrage au fascisme. » Et puis, c'est vrai que Macron, il a pas fait que de la merde. Ils avaient raison, les complotistes. Elles sont bigrement efficaces, ces nanotechnologies de droite qui infestent les vaccins. Et je crois qu'on a commencé à se fendre la pipe comme ça. Le dialogue s'est poursuivi. Bon. Bon, on va tout de suite le dire, puisque tu travailles dans une pharmacie, tu es donc un laquais, un valet de Big Pharma, qui n'est qu'un instrument du nouvel ordre mondial, dirigé par des Illuminati reptiliens dont tous ne sont pas francs-maçons, mais certains platistes.
Donc là, je pense que tu as bien fait le résumé des conflits d'intérêts que je pourrais avoir vis-à-vis de ma profession. Oui, je pourrais pas te dire le contraire, je travaille pour ces gens-là. Je mettrai quand même des petites nuances, c'est que je ne le fais pas uniquement dans un aspect pécunier. J'ose espérer qu'on apporte un minimum de soins dans le métier que je fais.
Pharmacien, combien d'années d'études et puis pourquoi tu fais ça?
J'ai fait 6 ans sur les bancs de la fac pour apprendre les pathologies et plus particulièrement les médicaments, la pharmacologie. Comment tout ça va s'imbriquer dans le corps et ce que ça va donner comme effet quand on prend une drogue pour telle ou telle maladie. Donc ça prend du temps, c'est beaucoup de connaissances, imparfaites à mon avis, parce qu'on ne peut pas tout savoir sur une matière aussi dense que ça en 6 ans. Il y a beaucoup de pratiques qui aident, et puis après il faudrait se former en permanence, parce que ça reste de la science, donc les connaissances sont quand même légèrement en mouvement.
On le voit d'ailleurs, parce qu'avec l'élaboration de ces vaccins, on voit bien qu'ils tâtonnent quand même, enfin on est face à un truc d'urgence.
Effectivement, là c'est de l'urgence, on est dans beaucoup d'inconnus, on ne connaît pas encore complètement cette maladie, on en dessine les contours et on a régulièrement des surprises. On est en plein changement de variants et on voit que ça change un petit peu la donne. On voit qu'on va se manger une grosse vague, qu'on pensait que c'était peut-être fini grâce à la vaccination justement, qu'on avait passé le plus dur. On s'aperçoit que tout n'est pas figé, que les vaccins c'est très important, mais que là on voit que ça redistribue quand même les cartes par rapport à ça. Les connaissances sont légèrement en mouvement. Alors ça ne veut pas pour autant dire que la science c'est le doute et qu'il faut douter de tout ce qu'on nous apprend et qu'il n'y aurait là-dedans aucune vérité absolue. Ce qui se passe, c'est que la recherche est en mouvement et que là, nous sommes dans une phase encore de recherche vis-à-vis de ce Covid et que donc on n'a pas encore toutes les clés en main. On ne sait même pas d'où il vient encore exactement. Des choses qui pourraient peut-être nous aider à comprendre comment l'affaiblir et vivre mieux avec qu'avec toutes ces restrictions en ce moment.
Très troublant, il y a des gens qui sont contre les vaccins, la vaccination. Bon, on va commencer par le plus gros. La Covid-19 est une invention médiatique et gouvernementale destinée à nous diviser. Et que, en fait, cette maladie n'est pas plus grave qu'une grippette. Bon, il y aurait une espèce de complot quand même derrière tout ça, parce qu'il y a plein de gens qui meurent, mais en fait, ils ne meurent pas de la Covid.
Éventuellement, on pouvait se poser des questions au début, quand c'était pas chez nous et que on voyait ça de loin, qu'on rigolait bien, quand on voyait les Chinois construire leurs hôpitaux, tout fermer le pays, etc. On se disait, bon, c'est un truc de Chinois. Alors bon, justement, beaucoup se sont demandé si c'était pas organisé pour foutre le bordel chez nous. On s'est quand même vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient en même temps avec des gros problèmes respiratoires. Que ces gens qui venaient en masse avaient une maladie et que cette maladie, c'était le Covid. Qu'on arrive très bien à détecter. On fait maintenant des millions de tests par jour, donc on sait très bien la caractériser. Il n'y a vraiment pas de doute sur le fait que cette maladie existe. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'il y a peut-être eu entre 100 et 200 000 passages à l'hôpital de personnes qui se présentent et qui n'ont pas ce souci habituel de ne pas arriver à respirer correctement, à trouver leur air. Et donc ces gens-là ont tous en eux ce virus qui les diminue. Alors effectivement, les morts concernent beaucoup les gens plutôt malades, plutôt âgés, mais on va dire que pour beaucoup de ces gens-là, le Covid les pousse gentiment vers la sortie, un peu plus rapidement que ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'effectivement, mamie qui est très âgée, qui prend déjà des choses pour son cœur, elle est condamnée déjà peut-être dans les années qui viennent, mais bon, bah là le Covid claque. Ça accélère le processus. La théorie selon laquelle cette maladie n'existe pas, elle a quand même été très vite écartée pour les gens qui se sont donné la peine d'observer le réel. Parce qu'on voyait ça à la télé, on voyait des professeurs, alors on peut toujours se dire oui, la télé est manipulée, elle est là pour nous faire croire des choses, pour que nous puissions gentiment acheter un petit peu de matériel derrière pour faire tourner l'économie. on s'est quand même tous rendu compte que bah, même après, au fur et à mesure, on connaît des gens, on a des histoires de personnes qui se retrouvent à l'hôpital, qui parfois malheureusement décèdent du fait de cette maladie. Donc, je vais être honnête, moi, quand les premières fois que j'ai entendu parler du Covid, je me suis dit, oh, bah oui, mais c'est une grippe, on va pas commencer à tortiller du cul dès qu'il y a une maladie qui tue un petit peu. Je me souviens avoir fait une blague de très mauvais goût en disant que la maladie qui tuait plus le monde dans le monde, c'était la diarrhée, ce qui est vrai.
La cigarette ou la voiture tue bien plus, apparemment.
Bien plus. Ouais, les accidents de la route, bien sûr, il y a des tas de choses. Bon, là, ce qui a surpris tout le monde, c'est que des gens à l'hôpital nous racontent que bah, ils sont obligés d'arrêter de traiter des gens, d'arrêter d'opérer des gens pour libérer des lits parce qu'ils se retrouvent avec une marée de gens qui n'arrivent pas à respirer. Donc avec des gens qui ont un problème. C'est pas j'ai le Covid, je vais à l'hôpital et puis j'attends que ça se passe et puis ça va aller bien quoi.
Plus grave qu'une grippette en fait.
Donc en fait beaucoup plus grave parce que bah, on s'est retrouvé avec des dizaines de milliers de gens qui venaient en même temps à l'hôpital bloquer les services de soins. Jusqu'à faire perdre des chances à des gens qui seraient arrivés après cette vague pour se faire soigner pour, je sais pas, moi-même une jambe cassée ou des choses assez banales finalement.
Il aurait pu y avoir peut-être beaucoup plus de morts. Il n'y a bien entendu pas de solution idéale, puisqu'il tâtonne, hein, vaccin après vaccin, machin. Mais si la casse a été limitée, c'est quand même grâce à cette solution pas idéale que sont ces vaccins.
Alors oui.
Je disais tout bêtement à quelqu'un sur le marché l'autre fois, je dis écoute, là on est en train de s'engueuler sur le marché dans l'espace public, tu remarqueras qu'on n'est pas en prison chez nous. Et c'est bien parce qu'il y a des crétins dans mon genre qui se font vacciner, que on n'était pas en prison chez toi et que je suis pas en prison chez moi, et que là on est en train de débattre bah, dehors en fait.
Ouais,
ce qui était tout à fait impensable il y a encore quelques mois.
Au début, quand on avait énormément de contaminations, on avait toujours ce flot de gens en décalé 15 jours après qui se retrouvaient à l'hôpital. Et donc on a pu mesurer l'effet du vaccin cet été avec la vague qu'on s'est mangée au mois d'août, alors que pour certains c'est pas une vague, c'est pas... Enfin bon bref, tu trouveras toujours des gens pour me donner la contradiction sur cette histoire de vague, mais il y a bel et bien eu une vague cet été, il y avait beaucoup moins de gens qui se sont présentés à l'hôpital avec des symptômes graves et on a eu moins de morts.
Environ à la louche, 8 personnes sur 10 qui se trouvent en soins réanimatoires à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Ah bon, m'a-t-on dit, mais d'où tiens-tu ton information? Je dis, bah, je l'ai chopé sur France Intox, sur France Inter, pardon, parce qu'il y a des spots gouvernementaux qui, et là, je me suis fait tomber dessus. Comment, toi, qui fustiges les médias dominants depuis 25 ans, d'un seul coup, tu t'es mis à croire aux messages gouvernementaux, mais tu es devenu un petit soldat aux ordres de Macron? Toi qui as fait tant d'émissions sur la résistance, comment est-ce que tu as pu ainsi virer ta cutie? Et là, t'as l'air d'un con parce que tu dis, bah oui, je l'ai entendu à la radio d'État. Bon, ça m'a été confirmé par ma copine Anita, qui est infirmière urgentiste et qui voit bien qu'effectivement, beaucoup de gens qui sont en soins réanimatoires à cause du Covid ne sont pas vaccinés, même s'il y en a aussi.
Mal vaccinés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait le schéma complet, c'est-à-dire 2 doses plus une troisième plusieurs mois après, parce que les antivax auront raison le jour où il y aura 100% de la population vaccinée, les gens qui iront à l'hôpital seront tous vaccinés. C'est que le vaccin, c'est pas un bouclier infaillible, c'est un outil qui permet de diminuer le nombre de personnes qui vont se retrouver en carafe.
Donc si vous dites que le postulat, même des gens vaccinés peuvent être porteurs du virus et le transmettre même s'ils n'en sont pas eux-mêmes malades, ça c'est exact.
Bien sûr, c'est exact, ça n'a jamais été contredit. C'est-à-dire que même dans les premières études des laboratoires satanistes dont je
par des savants fous qui tripotent des pangolins suspects
et dont je ferme les yeux sur leurs agissements sur les animaux parce que ça me permet de bouffer le week-end, ils n'ont jamais prétendu à réduire la transmission. C'est-à-dire que dans les premières études, eux, leur mission, c'était de diminuer le nombre de formes graves et diminuer le nombre de morts. C'était leur principale préoccupation. Là-dessus, ils ont eu raison. Et on s'est aperçu, une fois qu'on avait vacciné beaucoup de gens, et de faire des études d'épidémiologie, comme on sait très bien les faire, que ça diminuait légèrement la transmission tout de même. Ça diminuait d'un facteur 8 cet été. Bon, là, visiblement, c'est beaucoup moins. On sait qu'avec 3 doses, on peut être encore contaminant, beaucoup moins, puisqu'on excrète moins de virus, d'après ce que j'ai lu récemment. Mais c'est mieux que rien, on va dire, sur la transmission. Je pense que ce qui alimente aussi encore beaucoup les discours anti-vax, c'est qu'on a eu un discours pro-vax qui disait que c'était la solution ultime. On a entendu ça à longueur de plateau télé, que c'était ça qui allait nous faire sortir. On a même cru à un moment donné que c'était fini parce qu'on était à l'immunité collective et qu'on était tranquille pour la fin des temps. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas en vaccinant tout le monde qu'on aura la solution ultime. Bon.
Dans les autres choses un peu stupéfiantes que j'ai pu entendre ici ou là, il m'a été dit que la Covid, ça se soigne à l'argile verte. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt ?
On est un peu con quand même.
Dans la foulée, j'en ai entendu d'autres aussi. Des gens très bien informés, apparemment, qui m'ont dit non, mais tout le monde n'a pas besoin du vaccin, parce que moi, mes défenses immunitaires, elles sont à fond. Vu que je mange bio, que je fais du sport, que je fais plein de yoga, eh ben, j'ai pas besoin de vaccin parce que mon corps se défend tout seul. Apparemment, le fait qu'on puisse être très sain, mais malgré tout quand même transmettre le truc, semble pas toujours être un problème pour ces interlocuteurs-ci, mais il y en a des qui ont besoin du vaccin et d'autres pas.
Alors, si on se place sur un plan purement individuel, oui, je vais parler pour mon cas, j'ai 36 ans, je suis en bonne santé, je regarde les stats. Quelles sont mes chances d'aller à l'hôpital ? Elles sont très faibles. J'ai contracté la maladie, moi, bah, je suis pas allé à l'hôpital. Bon, j'étais en carafe, j'ai jamais aussi mal respiré de ma vie. Il y a eu des symptômes un peu bizarres. Bon, c'est une maladie qui est un peu particulière, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Mais je m'en suis sorti. Enfin, si on part sur ce plan-là, une grippe, pour moi c'est une grippe. Est-ce que pour autant j'ai besoin de me faire vacciner ? Bah non. Enfin, à l'époque j'étais pas vacciné, j'ai survécu. Bon, ça c'est le plan individuel. Ça aurait pu se passer totalement différemment. Il y a quantité de témoignages qui sont pas vraiment écoutés, je trouve, sur le Covid long. On a des tas de gens qui étaient en forme. J'ai lu un article qui parlait d'un militaire de 40 ans en forme exceptionnelle qui a contracté la maladie et qui se bat depuis un an pour mettre un pied devant l'autre. Donc, sur le plan individuel, peut-être que ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, c'est aussi un grand loto. C'est-à-dire que peut-être que pour des gens d'une certaine catégorie d'origine, machin, qui aurait tel ou tel gène. Peut-être qu'il y a des populations qui sont, même à un jeune âge, plus sensibles à cette maladie. Et donc, comme on fait de la santé publique, c'est on règle un problème, on essaye de... on tape large, on fait une loi normale, et puis on se préoccupe pas des cas exceptionnels. La stratégie à adopter, c'est de mettre une grosse cloche sur tout le monde, et donc de vacciner massivement. Comme ça, on évite toutes les surprises qu'on pourrait avoir. Parce que la médecine, le corps humain, la biologie n'a pas des caractéristiques immuables et reproductibles chez tout le monde. Savoir qu'on ne sait pas tout. Dans cette maladie, on ne sait pas tout. On commence à comprendre que ce virus, il arrive à pénétrer extrêmement bien nos cellules et qu'il fait des sillons. Et que si on a une dose importante de virus, on a quand même plus de chances d'avoir de grosses complications. Si on a de la chance, on fait peut-être un petit Covid parce qu'on le chope... on est en forme, on est bien, on n'a pas pris une grosse dose, tout va bien. Mais peut-être que dans une autre configuration, tu te fais une méga fête cluster Covid où tu as un convive qui en envoie plein beaucoup. Peut-être qu'à ce moment-là, tu n'auras pas exactement la même maladie. Je pense que c'est beaucoup aussi une question de moment qui fait que ton immunité va être bien pour te défendre. Ou, voilà. Et peut-être que oui, ton alimentation, tout ça, participe à tout ça. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à pouvoir affirmer de telles allégations. Effectivement, hein, c'est très bien de prendre du zinc, de la vitamine D, des choses comme ça dont on se prive parce qu'on mange peut-être un petit peu mal ou parce qu'on prend pas assez bien soin de nous au quotidien. Donc c'est une bonne chose de promouvoir toutes ces choses-là. Je ne pense pas que ce soit la clé pour comprendre la façon dont on guérit de cette maladie. C'est très bien de prendre soin de soi et de faire avec les choses les plus élémentaires pour être bien, pour être en forme, pour se prémunir au maximum des mauvaises choses et notamment des maladies, mais force est de constater que ça ne suffit pas. Que même loin de ça, ça peut être dangereux si on axe notre défense sur uniquement l'alimentation. On voit bien que y a des tas de gens en forme qui se retrouvent en carafe à l'hôpital, de tout âge. Pour moi, c'est pas un argument qui suffit à lui-même. Je me soigne, je vais bien... je prends de la propolis, je prends des choses naturelles, c'est très bien, mais ça ne va pas suffire à tout guérir. D'ailleurs, là, il me semble qu'on connaît tous des cas de gens qui vont bien et qui ont quand même chopé ce truc-là. bon, qui la plupart du temps s'en sortent bien, parce qu'heureusement c'est pas une maladie qui envoie tout le monde au tapis,
mais qui ont pu le transmettre à d'autres.
Mais par contre, ça n'a rien empêché, voilà, sur la transmission, même si on s'en sort personnellement, si on n'a pas pris de mesures supplémentaires que de prendre de la propolis, enfin bref, ça ne suffit pas à arrêter les contaminations qui, de proche en proche, amène des gens faiblards à choper cette maladie et à se retrouver avec des difficultés respiratoires très importantes.
Là, on rentre dans un débat philosophique. J'entends souvent l'argument, c'est un choix individuel, chacun fait bien comme il veut. Ça me heurte, je dis, mais est-ce que tu veux faire société ou pas? Si la personne qui me dit ça assume son truc, reste complètement enfermée chez elle ou va vivre au fond des bois avec un stock de bouffe, en contact avec personne, je dis ok. Mais trafiquer des QR codes pour rentrer dans les salles de spectacle quand on n'est pas vacciné et machin, je trouve que ça pose un autre problème. Donc choix individuel, bah non en fait, parce que ton choix de combattre pour ton droit de me contaminer, je le trouve un peu douteux en fait.
C'est le choix individuel devient de l'individualisme pur.
En même temps que je te dis ça, tu vois, je trouve ça hyper moralisateur. Enfin, oui, tu vois, j'ai l'impression de brandir un petit livre rouge sous le nez de quelqu'un en disant ah c'est pas bien, vous avez fait caca dans votre culotte, c'est vilain ce que vous faites. Ça fait chier, en fait.
Ça fait chier, mais il y a quand même une somme incalculable de règles auxquelles on se plie tous pour faire société. Enfin, l'exemple le plus élémentaire qu'on brandit tous, c'est bah oui, quand je roule, je respecte les limitations de vitesse. Parce que bah, quand on roule vite, on a plus d'accidents, on peut tuer des gens. Pourquoi on ne conduit pas avec 4 grammes dans chaque poche? Eh ben, parce que c'est dangereux. Pourquoi on fait de la prévention pour les consommations de stupéfiants, d'alcool? Parce que c'est dangereux. Et on se force à se parler correctement en société alors qu'on n'aurait pas forcément envie, mais parce que bah, le but du jeu, c'est quand même qu'on se respecte tous et qu'on puisse avancer ensemble. C'est une somme de compromis, finalement. Dans une société, t'es obligé de faire des compromis. Tu peux pas faire tout ce que tu veux en permanence. Après, je comprends le côté « je fais ce que je veux avec mon corps, c'est le dernier rempart ». Bon, soit. Ceci dit, on a quand même vu par le passé que les plans, les actions de santé publique ont pour but de faire en sorte que les gens soient en meilleure santé. On essaye par exemple de donner correctement à manger aux mômes dans les cantines, bon, bah, c'est pour qu'ils soient bien. Bon, bah, quand on vaccine une population, bah, uniquement pour remplir les poches d'un laboratoire, même si bah, oui, effectivement, il y a toujours de l'argent dans toutes ces histoires. Parfois, c'est un peu dégueulasse. On pourra peut-être reparler des histoires de brevets, si tu veux.
Très accessoirement, et t'as des gens qui découvrent le scandale Big Pharma. Mais enfin, les laboratoires pharmaceutiques s'engraissent sur le dos du contribuable depuis 1946, année à laquelle le ministre communiste Ambroise Croizat a créé la sécurité sociale. Et depuis 1946, les labos s'engraissent à mort. Donc, ça date pas de la Covid, cette histoire de Big Pharma qui se fait du pognon sur notre dos.
Non, non. Et puis, le petit problème qu'on a, c'est qu'ils se font du pognon sur notre dos, mais nous sauve la mise de temps en temps. Donc on a fini par se dire, bon, on va peut-être quand même accepter 2-3 petites choses, parce que bah, quand on a des grosses infections, on prend un antibiotique et on s'en sort un petit peu mieux, et on a même, quand on regarde sur le long terme, et ben, y a des tas de maladies qui ont reculé. Après, peut se poser aussi la question de est-ce que ça vaut le coup de se soigner, ou est-ce qu'il ne vaut même pas laisser la nature faire son action et laisser les maladies se propager, parce que bah, c'est la nature et c'est la vie, quoi.
Les médicaments, des fois, ça te soigne. Cela dit, tu dis aussi ça à quelqu'un dont la grand-mère a probablement claqué à cause du Mediator des laboratoires Servier.
Tout à fait. Il y a des scandales sanitaires par le passé. Il faut les étudier, il faut regarder ce qui ne va pas. Là, tu parlais de Servier. Ils ont complètement occulté tout un pan des effets indésirables, et surtout, ils ont désinformé les médecins pour vendre leur camelote. Oui, là, on a complètement corrompu la mission de santé publique, et il faut que ce soit puni, et très sévèrement puni. C'est normal qu'il y ait une défiance vis-à-vis des labos. Il y a beaucoup de problèmes avec les médicaments. Le médicament n'est pas une panacée. Ça peut aider, ça peut donner des effets indésirables. Bon, c'est à ça que sert mon boulot, c'est de conseiller les gens sur leur façon de prendre les médicaments. Bien sûr, j'ai pas le contrôle sur les effets que les médicaments vont entraîner chez les gens. Je peux juste les avertir des bénéfices, des risques qu'ils encourent quand ils envisagent de prendre un traitement. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin. C'est Big Pharma qui veut prendre mon pognon. C'est Macron qui veut...
Bah, on se met quand même un truc dans le corps. Moi, j'ai des retours de certaines copines qui m'ont dit que leurs règles avaient été assez incroyablement perturbées suite à la première ou deuxième injection. Mais cela dit, les copines en question m'ont dit, bon, après ces perturbations là, qui ont duré un mois après l'injection, les cycles sont revenus normaux. On est bien d'accord, c'est pas anodin. Des fois, dans des accès de parano, d'ailleurs, je te le dis, ça se trouve, peut-être qu'on est en train de s'inoculer de futurs cancers qu'on va tous développer dans 15 ans, enfin, j'en sais rien.
Et ça me semble tout à fait légitime de se poser des questions sur un produit qui est récent, qui est nouveau, sur lequel on a quasiment 2 années de recul. Mais non, c'est pas anodin, il y a...
Le fameux machin truc Messenger, là, je sais pas quoi, est une technologie qui existe depuis très longtemps. Et que non, c'est pas si nouveau que ça.
Je pense qu'on a eu de la chance... que l'état de la science et ce genre de solution sous le coude. Ils ont beaucoup cherché cette technologie dans la recherche, la lutte contre le cancer. Même au départ, c'était surtout pour les maladies génétiques. Ils voulaient chercher à aller contrer au plus près certains mécanismes génétiques qui entraînaient des maladies. Bon, il s'est avéré que ça marchait pas bien, donc ils avaient cette technologie sous le coude. Là où on a eu de la chance, c'est que quand ils se sont mis à essayer de faire un vaccin contre le Covid, force est de constater que ça a marché. L'ARN, c'est quelque chose de très simple à reproduire. Ils avaient déjà le véhicule, ils savaient à peu près comment ça allait marcher. Ils ont juste eu de la chance que ça marche. Et d'ailleurs, j'ai lu un truc sur les études de Pfizer qui ont eu lieu en Allemagne, hein, et pas en Afrique. Parce qu'on entend souvent ça, que tout est testé chez des populations très pauvres, parce qu'on peut faire de la casse, et parce que c'est un système dégueulasse, etc. Non, il y a beaucoup de gens... semblables à nous, petits enfants du capitalisme heureux, qui ont profité de ces études. Et dans les premières personnes, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des doses de vaccins inutiles, qui n'ont servi strictement à rien, parce que le vaccin n'était pas au point. Ils ont eu des choses qui n'étaient pas efficaces. Donc, d'une, on a eu de la chance pour avoir cette technologie, et de deux, on a doublement eu de la chance qu'ils ont trouvé la bonne formule qui fait que ça fabrique des anticorps et que ça te protège. Ce qui est la base de la vaccination. Donc, sur ce fait-là, on ne peut pas dire que ça ne marche pas.
Accessoirement, tu en as eu aussi des retours, toi, de femmes qui te disent que leurs règles ont été perturbées suite aux injections ou...
Non, je n'ai pas eu ce retour. J'ai eu beaucoup de retours, moi, de gens qui ont fait, en fait, quelque chose qui s'apparente au Covid. Des grosses fatigues, des douleurs articulaires, mais des choses assez... entraînant des arrêts de travail, ça, oui, il y en a... Je vais pas te dire qu'il y en a eu beaucoup, mais j'ai quand même une bonne dizaine de témoignages en sens de gens qui ont très mal supporté cette injection, qui se sont retrouvés malades, à pas pouvoir aller travailler, à pas pouvoir s'occuper de leur gosse. Donc oui, il s'est passé quelque chose dans leur corps. On va pas dire, c'est psychologique ou je sais pas quoi. Bon, heureusement, c'est rentré dans l'ordre. Malheureusement, comme ça suit une loi normale, tu vas avoir entre 5 et 10% de personnes qui vont faire des réactions qui vont leur entraîner des maladies graves, voire même pouvant entraîner la mort. Oui, c'est vrai, on a eu des cas, notamment au début, c'est pour ça que ça a tâtonné. Alors à quel âge on le fait, à quel âge on le fait pas, le rappel à combien de temps après, etc. Enfin, toutes ces choses-là ont été très mouvantes parce que une fois qu'on a commencé à avoir la masse de données, on s'est aperçu que il fallait peut-être un peu plus cibler les choses. On est toujours là-dedans.
Un truc que j'ai pu entendre aussi, c'est je ne me vaccine pas ou je vaccine pas mes enfants parce que ça favoriserait la myocardie. Donc
myocardite, ouais, c'est une inflammation des muscles du cœur. Ça provoque des douleurs, ça peut provoquer des problèmes de contraction, donc un cœur qui marche moins bien. La plupart du temps, ça se soigne très bien, ça rentre dans l'ordre assez facilement. Enfin, c'est un effet indésirable du Covid de façon large. Moi, j'ai mon neveu de 15 ans qui a chopé le Covid, qui a fait une myocardite suite à ça. Et suite à sa vaccination, il en a refait une. Donc, il y a effectivement des gens qui sont sensibles de ce côté-là. C'est pas prévisible, ça fait partie des choses...
Mais beaucoup de gens ou...
J'ai pas de statistiques là-dessus. Ce que je sais, c'est que la Haute Autorité de Santé a recommandé pour le vaccin Moderna de ne pas vacciner les gens avant 30 ans avec le vaccin parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une proportion non négligeable, peut-être quelques dizaines de milliers de personnes, ce qui est pas rien, ce qui fait quand même du monde. Quand on remet sur les millions de vaccinés, ça fait moins de 1%. C'est de cet ordre-là. Les effets indésirables très graves, c'est moins de 1%. Mais sur la masse de gens vaccinés, ça veut dire que tu connais 100 personnes vaccinées, tu vas peut-être connaître une personne qui a développé ça. Une personne sur 100, ça reste beaucoup. C'est pas rien. Mais il faut remettre ça dans le contexte de vaccination massive. Ouais, je vais reprendre cette maxime à la con qui est un petit peu déplacée quand on parle de... de santé et de, voilà, de bien-être, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bon, c'est un truc de bourrin, quoi. C'est un truc de personne qui pense pas au bien-être, à la sensibilité des gens, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe en médecine. C'est-à-dire qu'on fait au mieux pour la masse la plus grande. Et c'est comme ça que sont basées toutes les avancées de santé. La plupart, en tout cas. Big Pharma s'occupe pas trop des petits problèmes qui concernent peu de gens, sauf si ces gens sont très riches. Et alors là, là oui, on fait des études, etc. Mais on aurait peut-être pu éradiquer le paludisme depuis un petit moment s'ils avaient un petit peu plus de pognon, hein, tous ces pauvres. Hein, ils font pas d'efforts non plus.
Alors, les choses que j'ai pu entendre aussi, c'est les Africains qui sont confrontés à tout un tas d'épidémies depuis très longtemps. Palu,
choléra, tout ce qui concerne l'assainissement de l'eau, donc des problèmes de diarrhée, la fièvre typhoïde.
Voilà, j'ai aussi entendu les Africains qui ne sont pas autant gorgés de médicaments comme nous et qui affrontent des tas de maladies et des tas d'épidémies depuis toujours, eh ben, ils s'en sortent mieux. À force d'épidémies, de machins, leurs organismes se sont... Je me suis peut-être dit aussi naïvement, c'est peut-être que les systèmes de statistiques et de recensement de gens malades dans certains pays africains sont peut-être pas aussi au point que chez nous et qu'il y a peut-être des cas de maladies qui sont pas relevés.
C'est certain, il y a même une étude qui est sortie la semaine dernière à ce sujet, sur l'Afrique et le Covid. Ils se sont aperçus que les contaminations remontées dans les stats officiels étaient très très loin de la réalité, qu'il y avait eu beaucoup plus de contaminations et de gens malades. Et de morts, mais là où le continent africain s'en sort bien, c'est qu'ils ont une population massivement jeune, beaucoup moins fragile. Il suffit de regarder les stades du Covid, ça tue qui ? Ça tue les populations les plus âgées. Les populations les plus âgées, ce sont les plus aisées de cette planète, qui peuvent vivre jusqu'à 80, 90, voire 100 ans, ce qui est devenu complètement commun pour nous, mais dans tous ces pays-là, il n'y a pas de système de soins qui te permette de guérir d'un cancer du sein aussi facilement que chez nous. Donc il y a toute une partie de la population, tous les gens fragiles de ces pays subissent les maladies. C'est principalement pour ça et pour d'autres raisons, parce qu'il y a aussi bien évidemment la pauvreté, la malnutrition. C'est pour ça qu'ils ont une population assez jeune pour cette maladie. La jeunesse protège. On connaît très peu de gens de moins de 30 ans qui sont allés à l'hôpital. On connaît beaucoup de gens qui ont eu le Covid de cet âge-là, qui s'en sont très bien sortis, voire très bien, pour en discuter, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont toujours des soucis. Hein, je trouve qu'on ne parle pas assez du Covid long, mais il y a quand même des tas de gens qui ont du mal à s'en remettre, qui ont l'impression que leur état de santé s'est quand même dégradé suite à cette infection. Je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus après quand ça touchera beaucoup de gens.
Bah, j'entendais le témoignage d'un sommelier qui s'est remis du Covid, mais à part que le gars, il a plus de goût, ce qui est très embêtant dans son domaine professionnel.
Oui, c'est ça. J'ai vu des stages pour les œnologues pour récupérer leur palais, leur odorat. Je parlais avec un ORL de Bretonneau qui a beaucoup bossé sur la question et qui élabore des protocoles pour récupérer ses sens organoleptiques qui sont essentiels. J'ai envie de dire au bien-être, hein. Non, quand tu n'as pas de goût, tu as moins de goût à la vie, j'ai envie de dire. Tes aliments sont... Perdre un sens, c'est perdre un peu d'humanité, je pense.
Là, je crois que j'ai pu énumérer en gros tous les clichés anti-vax dont je peux me souvenir, mais il y en a d'autres sûrement.
Au tout début, on a eu une généticienne de renommée internationale. Hein. Bon, alors faut voir sa conférence, ça fait un petit peu particulier. Des gens qui se présentent comme étant du sérail scientifique, qui étaient avec tous les anti-vax, France Soir, etc., à faire les manifs, à expliquer que cet ARN allait modifier en profondeur nos cellules et que nous allions devenir des producteurs de virus, que ça allait être la catastrophe et que cet ARN serait le support pour peut-être modifier les gens et entraîner un génocide, faire en sorte que on contrôle une population, enfin bref, que ce soit un outil d'oppression finalement. Bon, cette nana-là a été contredite correctement, parfois peut-être incorrectement, parce que les gens de la communauté scientifique sont parfois pas tendres entre eux, mais c'était de l'ordre de la croyance, c'est-à-dire que sous couvert de science, on a instillé, avec cet argument d'autorité, je suis scientifique, écoutez-moi, j'ai la vérité, on a instillé une peur irrationnelle, une instrumentalisation de la peur. On ne voit pas forcément dans quel but, on peut se dire que c'est un but purement humaniste. Une fois qu'on a dit que c'était très dangereux, derrière peut-être te prodiguer des conseils de santé.
Ça existait déjà sur le marché. Il y avait déjà ces gens qui te vendaient des extracteurs de jus de poireau pour vaincre le cancer, et la machine n'est pas très chère, tu peux la payer en plusieurs traites. Parce qu'évidemment, hein, derrière chaque crime, il y a toujours généralement le même mobile, le pognon. Mais avant qu'on en vienne à ces marchands de doute, pour reprendre le titre d'un documentaire diffusé par Arte, donc Arte, hein, cette chaîne d'État franco-allemande, elle aussi au service du nouvel ordre mondial, comme chacun sait. Avant de parler donc de ces charlatans qui profitent de la trouille des gens pour leur vendre des trucs à la con, et se faisant instillant le doute, que penses-tu du professeur Raoult ?
Moi, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire qu'au début, je me voulais rassurant, je voulais pas voir ce qui pouvait nous arriver. Toute parole rassurante était la bienvenue. Et en fait, ce monsieur s'est mis, dès le début de l'épidémie, à prodiguer. Donc le premier lieu, c'était qu'une petite grippe, qu'il fallait pas s'inquiéter, que ça ne touchait que les personnes les plus fragiles, et que il était très simple de le contrer grâce à un médicament pour lequel il avait trouvé quelque chose, et qu'il n'y avait plus de discussion à ce sujet. Au début, les paroles rassurantes me rassuraient.
D'autant plus que, venant d'un type, il était nobélisable, spécialiste mondial des épidémies, je sais pas quoi. Enfin bon, voilà, tu dis, faut arrêter d'avoir la trouille de scientifique. Bon, bah voilà, là, on avait apparemment un nobélisable expert dans son truc. Donc pourquoi ne pas croire ce monsieur
C'était une autorité absolue, reconnue, avec, on avait même des passages de politique sur les plateaux, vantant que ce monsieur, que c'était un éminent scientifique. Première chose qui m'a gêné, c'est que quand il a dit voilà, j'ai l'hydroxychloroquine, fin de partie, quelqu'un qui te dit quelque chose qui n'est pas vérifié avec un tel aplomb, chez moi ça s'appelle un prêtre. Voilà, Dieu existe, suivez-moi, on y va. Plus on allait dans la pandémie et plus il parlait, d'ailleurs ce monsieur s'est mis à ouvrir une chaîne YouTube, un compte Twitter le 15 mars et à parler toutes les semaines sans contradiction. Dès qu'on lui apportait la contradiction, il s'énervait, tout, etc. Ce qui a fait sa popularité. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'était devenu l'image du rebelle scientifique qui est hors de l'establishment, qui voilà, n'est pas soumis à Big Pharma, et que justement, il avait trouvé une solution pas chère, super, et que Big Pharma voulait couper court. Alors que bon, entre nous, si l'hydroxychloroquine marchait, je peux te dire que c'est Big Pharma qui l'aurait produit et qui aurait fait des millions dessus. Voilà, donc si ça pouvait marcher, ça fait toujours un petit billet en plus. Je pense que là, si on n'y est pas, c'est qu'il y a un gros souci. C'est-à-dire que ce truc-là ne marche pas. Qui s'est révélé ensuite, il y a quand même eu beaucoup d'enquêtes, il y a eu des lanceurs d'alerte de l'intérieur qui ont raconté que quand même, ce mec-là ne fait aucune étude sans son intuition. C'est-à-dire qu'il a une intuition, il demande aux gens de bosser sur son intuition, et quand les résultats ne sont pas en accord avec ce qu'il pensait au départ, il trafique, il change de méthodologie, il enlève des expériences, il rajoute des choses, et va même jusqu'à trafiquer des résultats. Vraiment, ça a été dit, il y a une enquête dessus, il se comporte un petit peu comme un gourou au sein de son institut. C'est Mars Actu qui a sorti ça, qui est un canard indépendant de Marseille. Ils ont eu beaucoup de témoignages en sens. Donc, quand je parlais tout à l'heure de prêtre, visiblement, on n'en est pas loin. On n'est pas loin du gourou charlatan, quoi. Moi, ce mec-là, donc au début, ses paroles m'ont peut-être un peu rassuré, puis très vite, j'ai senti l'arnaque. Plus on rentrait dans cette pandémie, deuxième vague, troisième vague, nanana, plus je me rendais compte qu'il était en roue libre. Il racontait n'importe quoi, et il créait beaucoup de confusion au moment de la vaccination, où il fallait commencer à avoir un discours assez rationnel. Il a plongé beaucoup de gens dans le doute, et au-delà, c'est-à-dire que les gens qui étaient déjà dans le doute et qui avaient peut-être même un peu de colère et déjà beaucoup de ressentiment vis-à-vis des mesures sanitaires, de la stratégie vaccinale, ces gens-là sont devenus complètement fanatisés par ses paroles, par sa défiance, et se sont mis en rideau de pensée et n'acceptent plus la contradiction et la complexité de ces phénomènes. Comme beaucoup de contre-vérités, on se base sur une information simple qui répond à une colère ou à un ressentiment pour emmener les gens, alors soit à acheter quelque chose, là en l'occurrence lui c'était fallait qu'on fasse tout pour qu'il y ait de l'hydroxychloroquine dans chaque foyer, mais au-delà je pense que lui il a un petit côté gourou qui fait qu'il a, il jouit de cette notoriété. Il sait pas pour rien que bah il fait ses petites vidéos, ses trucs où il est tout seul, pas une manif anti-vax où il y a pas un t-shirt Raoul. Il y a un culte de la personnalité en plus de... voilà.
Là, le gain pour ce monsieur pourrait être une illusion de petit pouvoir à la mort moelle-neu, quoi. Il y a un truc qui m'a beaucoup attristé et effrayé cet été, c'est d'entendre et de voir des gens que je sais intelligents et cultivés, dotés d'un cœur et d'un cerveau, se vautrer dans ce qui me semblait, moi, du haut de mon incompétence médicale totale, puisque j'ai jamais ouvert un bouquin de médecine, mais bon, voilà. En gros, ça m'a fait mal et ça m'a fait de la peine d'entendre des gens intelligents dire ce qui me semblait être des conneries. La Covid se soigne à l'argile verte, c'est une invention médiatique, ils font ça pour nous diviser, enfin bon. Je dis, bah oui, bah depuis que vous avez plus de grille d'analyse marxiste, hein, le capital, le salariat, les exploiteurs, les exploités, vous êtes en colère, mais vous savez plus contre quoi vous devez vous mettre en colère. Moi, c'est mon analyse du truc. Vous flippez, vous avez raison, vous êtes dans la suspicion, vous avez raison, parce que le gouvernement a fait de la merde dès le départ. Les masques, ça sert à rien, puis ouais, en fait, si, mettez-en, mais on n'en a pas. Et puis, vous pouvez aller vous contaminer à Leroy Merlin, mais pas dans les librairies. Enfin bon, donc que les gens soient dans la fureur et la suspicion, le gouvernement a tout fait pour ça. On est bien d'accord. Et puis, depuis quelques mois, le reliquat d'antivax qui reste, on en est à combien de vaccinations de la population française? Là, j'ai entendu 90%.
Quasiment 90, il me semble. Ouais, 88, il me semble, des gens vaccinables.
Alors, le gouvernement n'aurait pas eu besoin des antivax pour nous fliquer. Ça, c'est pareil, hein, c'est comme Big Pharma. Le flicage, ça date pas d'hier. Hein, on peut faire monter ça, je sais pas quoi, Fouché, Talleyrand, Louis XIV, les décrets-lois d'Aladier de 1938. Enfin bon, voilà, c'est pas récent, le flicage. Il s'est juste perfectionné.
Technologisé, on a le QR, par exemple, c'est la quintessence de la technologie qui nous a servi, quoi. Bon, alors...
Le reliquat d'antivax qui reste, là, fournit au gouvernement un prétexte en béton armé pour nous fliquer. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs qu'en Espagne, où la population est allée massivement se faire vacciner, en Espagne, il n'y a pas de QR code.
Je sais pas. Ce que je sais, c'est que il y a un QR code harmonisé pour l'Europe. C'est-à-dire que si tu veux voyager, tu dois transformer le pass sanitaire que tu as eu quelque part en pass sanitaire européen, et il y a un QR code. Peut-être qu'en Espagne, comme ils ont massivement, je crois qu'ils sont quasiment à 100% des gens de plus de 65 ans, enfin c'est la population cible, c'est les gens qui meurent le plus. Peut-être qu'ils n'ont pas eu besoin d'instruments de flicage, parce qu'il y a eu une adhésion assez massive de la vaccination. Donc effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'on aurait eu besoin d'un QR si tout le monde avait accepté de faire l'effort de se faire vacciner pour tout ça? Bon, les gens d'extrême droite te diront que le QR, c'est le début du Great Reset, que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir te ranger dans une case et après faire un genre de contrôle social à la chinoise, où bah, ce numéro te permettra d'avoir accès à tout ce que font ou ne font pas bien, en gros, en termes de civisme, on va dire. On peut se poser des questions. Maintenant, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus intrusif que tes paiements par carte bleue.
Avant de nous parler de flicage, fermez vos comptes Facebook, jetez vos téléphones portables, arrêtez d'utiliser des cartes bleues, déchirez votre passeport biométrique. Puis la prochaine fois que vous comptez aller dans un ashram en Inde, bah, vaccinez-vous quand même, parce que c'est obligatoire. Il y a un truc, Jean-Baptiste, qui m'a aussi attristé et beaucoup inquiété. Voilà, je reviens à ces connaissances anti-vax, machin. Il m'est arrivé chez certains individus de trouver quelque chose d'un petit peu illuminé quand même, qui, à certains égards, m'a fait penser à une espèce de phénomène sectaire, mais sans gourou et sans structure sectaire. Ou alors, s'il y a des gourous, ils sont un petit peu partout disséminés sur Internet. Ça m'est arrivé des fois d'avoir des conversations avec des gens qui me semblaient un peu illuminés, en fait. Alors, il y a un truc que je peux tout à fait comprendre parce que je suis en train d'y passer moi-même. C'est que effectivement la violence psychique d'être enfermé en prison chez nous, confiné, comme on dit, privé de vie sociale, privé de toucher, privé de fêtes, de bamboches, faire la teuf, faire des bamboches, boire des coups, prendre ses copains dans ses bras en évitant de leur postillonner à la gueule. Et donc je peux comprendre en fait qu'il y ait une révolte de bah non, en fait vous nous empêchez de vivre, vous nous empêchez de danser, vous nous empêchez de nous toucher, et c'est une horrible violence qui nous est faite. Et je comprends que bah, on n'est pas tous égaux. Moi, je t'avoue qu'au bout d'un an et demi, avoir fait ce qui me semblait relativement raisonnable ou rationnel de faire, alors je continue, hein, masque, gel, machin, mais là, en l'occurrence, on est en train de se parler, on a moins d'un mètre l'un de l'autre, et ça se trouve, tu m'as envoyé plein de postillons, et moi aussi. On ne peut pas vivre comme ça. Donc ça, je peux comprendre qu'il y a une révolte contre ce truc-là, et qui vire même dans le, au déni, non, ça n'existe pas, parce que j'ai besoin de faire la teuf. On va en revenir aussi à... c'est pas juste un truc spontané de la peur du futur, la peur du complot. Le documentaire diffusé sur la chaîne d'État, Arte, intitulé « Antivax, les marchands de doute » était assez éclairant parce qu'en fait, il démontrait qu'il y a des gens qui en profitent du doute et du chaos pour vendre de l'eau de Javel en bouteille. Mais ça fait penser aux charlatans des westerns du 19e siècle qui, avec leur wagon, allaient vendre des élixirs magiques. Et là, il y a apparemment un type qui se fait une fortune en vendant de l'eau avec de l'eau de Javel dedans.
En fait, ce truc de pseudo-science, il y a un énorme terreau qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années parce que, surfant sur le fait que la médecine telle qu'elle est pratiquée dans nos pays ne soigne pas tout le monde et parfois fait même du mal, hein, cette défiance, elle s'est tournée vers d'autres solutions présentées comme miracles, des solutions simples. Et donc tu as une myriade de gens, enfin ça a toujours existé quoi,
de charlatans, tu veux dire.
Charlatans, c'est ça, tout à fait. Basé sur toujours de la pseudo-science, voilà, des on va t'expliquer très simplement comment pourquoi quand on met ça, ça va marcher. Moi le premier, quand j'ai eu des soucis de dos, on m'a dit bah il faut que tu te fasses injecter de l'eau salée entre les vertèbres et tu verras, ça soigne tout le monde, machin. Bon, ça marche pas. Mais je pense qu'il y a, avant le Covid, il y a un vrai terreau de défiance de toutes ces institutions, et notamment de la médecine, pour des tas de raisons.
J'avais déjà entendu dire que c'est Pasteur qui a inventé la rage pour faire du business.
Attends, les antivax existent depuis le départ. Hein. Moi, je pense qu'il y avait ce terreau-là. Tu rajoutes, enfin, ça fait 20 ans qu'il y a des grandes manifestations, que les gens, il y a de plus en plus de précarité. Bref, que l'action politique n'élève plus les gens dans la société. Enfin, on a un souci politique. Ça a amené on a eu les gilets jaunes, qui étaient un truc un petit peu protéiforme, témoin d'une colère. Et donc, on arrive dans le Covid avec une colère pas possible. Des réseaux de pseudo-sciences déjà bien rodés qui sont, si tu te balades un petit peu sur des groupes Facebook, etc., tu vois que ça existe depuis des années, que c'est très puissant. La propagation d'informations est vraiment folle, parce que bah avant c'était pas accessible, si tu veux, c'était des choses qui se transmettaient que dans des petits réseaux de gens qui se retrouvaient pour faire des initiations, des choses comme ça, des réunions Tupperware, mais en fait on te vend des petits produits miraculeux. Aujourd'hui, tu as n'importe qui recherche une solution simple à un problème compliqué, va en trouver 1000 sur internet. Donc là tu mets le Covid par-dessus, qui est un truc qui a complètement chamboulé nos vies, qui... C'est la première fois qu'on se retrouve tous dans le même bateau, avec le même problème, et donc avec tous nos ressentiments. J'ai envie de te dire que c'est normal qu'il y ait une partie des gens qui ont dit non, stop, je ne croirais pas ce qu'on me dit. D'ailleurs, moi, dans mon entourage, les gens qui ne se vaccinent pas, la plupart du temps, m'invoquent des raisons politiques, en fait. Ils me disent, mais non, mais je suis pas anti-vax, j'ai vacciné mes enfants, mais là, je me vaccine pas parce que je veux pas rentrer dans le jeu des politiques, je veux pas être fliqué, machin, etc. Et donc certains sont honnêtes et se tairent chez eux et ne font que des bamboches à la maison, ne sortent plus, etc. Ils en souffrent beaucoup, mais se tiennent dans une espèce de rigueur avec leurs arguments, quoi. C'est normal qu'on se retrouve avec tout ça, parce qu'on avait une somme de souffrance, de douleur, et là on te rajoute, t'empêche d'embrasser ta famille, on te culpabilise aussi, avant de te responsabiliser, on te culpabilise, on te dit que ça va être de ta faute, etc., avant de t'expliquer, d'aller vers les gens, de leur expliquer les choses, comment on peut se protéger les uns les autres. Et donc, la réaction est tout à fait naturelle. Moi-même, j'étais en colère de toutes les mauvaises choses qui ont été faites au départ. Toute la com, parce que c'était beaucoup de com au départ. On voyait bien qu'on se foutait de notre gueule. Enfin, j'avais des gens qui venaient à la pharmacie. Ah bah tiens, il y a telle chose qui a été interdite aujourd'hui, ou machin. Ou, ah bon, ouais, bah non, bah j'ai, moi je suis pas au courant. Par exemple, pour la distribution des masques, etc., un cafouillage pas possible, où les principaux intéressés n'étaient pas informés au départ et tout venait d'un truc ultra vertical. Bref, personne n'était sûr de quoi que ce soit, en fait. Tout était maîtrisé par le haut et sans concertation, d'ailleurs. Enfin, si tu veux, même toutes les histoires de vaccination, Et en gros, t'as quelques mecs qui décident d'un truc, et puis le lendemain, t'as une flopée de gens qui arrivent. Faut répondre à leurs demandes, bah, pour la vaccination, comme dans l'instant, parce que le gouvernement a dit, bah, allez dans vos pharmacies, machin. Mais par contre, la logistique suit pas. Tu peux pas commander ce que tu veux, parce que bah, les stocks, en fait, ils ont pas très très bien géré leur histoire, et puis ils ont mal communiqué sur tel ou tel vaccin, ce qui fait que les gens veulent pas tel ou tel vaccin, parce que ça leur fait peur. Bon, bref, il y a plein de choses qui sont mal faites par ce gouvernement. Bon, après, voilà.
Que les gens soient suspicieux et furieux, c'est bien normal. C'est
bien normal. Sur cette histoire de Covid, on a commencé par nous raconter que ça venait d'un pangolin, d'un machin. Et quand on tire le fil, en ce moment, on se rend compte que bah, c'est peut-être des gens, c'est les gens qui trafiquaient les virus qui ont commencé à instiller ça. Et donc, on se pose des questions. Maintenant, on commence à avoir un faisceau de présomption sur le fait que ce truc-là soit sorti d'un laboratoire. Mais par contre, c'est impossible d'investiguer ou d'en parler de façon tranquille avec les gens qui sont de ce milieu-là, quoi, qui vont te nier en bloc que c'est pas possible, que machin, bon bref. Donc c'est normal qu'il y ait une défiance. Après, effectivement, on n'est pas tous égaux. Moi, j'ai beaucoup de chance, je suis très résilient, j'arrive à aller au-delà de ma peine pour continuer à vivre et avoir la joie de vivre, etc. Mais oui, ça a entaché quand même la joie de vivre des gens. J'ai des amis, là, quand on démarre nos discussions, on en vient toujours sur « Ah, c'est dur, c'est chiant, c'est lourd, qu'est-ce que c'est que cette vie de merde, nanana, etc. » Et puis bon, bah après, on boit un coup, on rigole, et puis on se prend dans les bras, et puis ça va mieux, parce que c'est ça qui manque, en fait. C'est ces choses banales dont on nous a privés, et dont on nous conseille de nous priver encore. Donc oui, c'est normal, le ressentiment, la douleur. Je pense que c'est là où il faut tenir, en fait. Il faut garder... une rigueur de questionnement rationnel, et puis ne pas fermer les portes, en fait. C'est normal d'avoir des doutes, mais continuer la discussion, même avec des points de vue qui ne nous conviennent pas, et essayons de s'ouvrir sans fustiger telle ou telle position, parce que la plupart du temps, dans ces discussions, c'est beaucoup de la posture, parce que les gens ne savent pas, enfin, qui sait tout ? Les antivax te disent c'est Big Pharma, c'est machin, c'est truc, c'est pour te contrôler. Mais vous avez juste regardé une vidéo YouTube ou lu un article un peu foufou. Personne ne sait la vérité, je vais dire. La conviction intime, c'est autre chose. Il faut garder la tête froide et continuer de discuter de tout ça. Et c'est pas toujours facile. Et c'est aussi pour ça que je suis là. C'est parce que on a pu avoir une discussion assez tranquille sur ces choses-là.
Évidemment, on est relativement d'accord.
Non, mais oui. Oui, tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'est pas lié d'amitié parce qu'on a pu cracher sur les gens qui ne pensent pas comme nous, si tu veux. C'est, quand on discute, on n'incrimine pas les... Enfin...
Bah, écoute, je veux te faire un aveu. Moi, je suis passé par une phase où ce qui m'apparaissait comme de l'incivisme de la part de gens qui ne veulent pas se faire vacciner a pris le pas sur l'affection et l'amour que j'ai pour les gens qui n'ont pas la même, allez, je vais être gentil, analyse que moi. Du coup, l'argument anti-vax qui m'a été asséné, c'est « Ouais, mais tu vois bien, hein, le gouvernement fait ça pour nous diviser et tu vois, ça marche, vu que tu n'es pas d'accord avec... » Et bon, il a fallu que je boucle une boucle en me disant « Attends, les gens avec qui je suis en train de pas être d'accord sont avant tout des gens que j'aime, pour qui j'ai de l'estime et du respect, et j'ai eu aussi un petit moment moi, personnellement, un peu tendance à l'oublier, jusqu'à ce que ça me rattrape en me disant non mais attends, ce qui est important d'abord c'est qu'on s'aime, ne perdons pas surtout le contact et le dialogue.
Bah, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que il faut pas perdre le dialogue et il faut pas laisser passer les choses et les dire, hein, parce que
savoir accepter que bah tu as des arguments mais les miens sont bons aussi et tes arguments sont pas meilleurs que les miens parce que chacun vaut midi à sa porte et machin. Donc, voilà, faut respirer très profondément aussi pour pouvoir écouter ça, quoi, hein. Et se dire mon dieu je ne suis pas d'accord avec toi mais qu'est-ce que je t'aime.
Non mais c'est pas facile, c'est très dur, c'est extrêmement dur. L'amour, c'est pas rationnel, et quand tu as des choses irrationnelles sur des opinions qui arrivent et qui ne sont pas fondées, ou en tout cas qui te paraissent complètement abracadabrantesques, faut essayer de pas trembler du menton et faut garder cette discussion et essayer de pas avoir d'argument d'autorité sur te dire bah telle autorité dit ça, donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Garder cette ouverture d'esprit de... Bon, alors, quand t'es face à une grosse connerie, quand tu en as le moyen, en discuter et à essayer de ramener des preuves à ce que tu racontes. Bon, ces preuves sont souvent rejetées, c'est pas évident.
Puis même au-delà de ça, tu sais, quand tu discutes avec quelqu'un de rationnel, il dit « bon, tu te vaccines pas, mais pourquoi ?» Et que la réponse que t'as, c'est « bah, je le sens pas, et je le sens pas, c'est un argument. » Ben, qu'est-ce que tu veux discuter Qu'est-ce que tu veux faire contre « je le sens pas »
Moi, contre « je le sens pas », je dirais « si tu le sens pas, d'accord, mais assume qu'il y ait des gens qui ne sentent pas le fait que tu ne le sentes pas et que ces gens-là pensent que tu les mets en danger et ils ont peut-être raison. » Bon, on va pas dire que les gens non vaccinés sont des dangers publics, mais du moins, ils ne participent pas à un effort collectif pour diminuer les risques. Quoi. On va dire que les gens vaccinés ont quand même pris leurs risques. Hein, on en a parlé, il y a des risques à se faire vacciner, hein, c'est pas rien. Bon, bah, si les gens ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils estiment qu'il y a un risque intrinsèque pour leur personne à cause de cette vaccination, très bien, mais dans ce cas-là, accepte que la personne en face ne veuille pas prendre un risque supplémentaire à cause de toi. Quoi. C'est la société, en fait. On essaye d'accepter. Alors après, ils vont te dire que c'est un délire psychosocial, instillé par la politique et par les médias dominants. Mais il me semble qu'un tas de gens sensés, avec des regards critiques sur la société, ont pris la mesure de ce que ça pouvait être se faire vacciner.
En conclusion, la vaccination telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas une solution idéale. Mais au moins, ça nous permet de pas être en prison chez nous.
Bah, c'est ça, ça nous permet d'avoir des hôpitaux où il reste un petit peu de place, en fait. Bon, alors c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais cette crise du Covid, c'est aussi la crise des hôpitaux. Ce qui est dommageable, c'est qu'on a encore fermé plein de lits et que, enfin bon, c'est n'importe quoi. On fait prendre encore plus de risques à tout le monde avec cette politique de santé. Mais là, dans l'instant, je connais des gens qui travaillent dans les hôpitaux, des gens qui travaillent dans les laboratoires, etc. Tous ces gens-là, ils sont fatigués, quoi. C'est dur. Ils voient plein de gens qui n'arrivent plus à trouver leur air. Les foutent sous respirateur. Ils ont des périodes comme ça dans l'année où ils vont voir 10 fois plus de cadavres que ce qu'ils ont vu. Ils sont fatigués. La majorité du corps médical nous dit quand même, s'il vous plaît, faites un effort, vaccinez-vous. Moi, c'est le message que j'entends de ces gens-là. Ils te disent, faites attention, prenez des précautions. Parce que j'ai entendu un mec encore la semaine dernière dire, dans le mois qui va venir, évitez de bricoler, quoi. Évitez de vous couper un doigt, de vous casser une jambe, parce que il est possible qu'on ne puisse pas vous soigner correctement. Pour ces gens-là, c'est un crève-cœur de dire ça. J'ai lu là récemment que les anesthésistes réanimateurs sont en train de mettre en place des protocoles de tri pour rationaliser le tri. Quand on va se retrouver avec des tas de gens et qu'on n'aura pas les lits, on ne pourra plus les emmener je ne sais pas où, on va faire des degrés de triage. Leur boulot, c'est de sauver les gens. Enfin, c'est pas que aller faire du golf avec une BM le week-end. Enfin, d'ailleurs, la plupart des gens qui sont dans le public ne roulent pas en BM. Mais moi, quand j'entends ça, je ne me dis pas mais qu'ils aillent se faire foutre. Quoi. Je fais ma vie, je fais ce que je veux. Non, je pense que c'est un appel du cœur. Enfin, je pense qu'ils en ont marre de voir des gens arriver malades. Quand ils voient le flot de non-vaccinés dans les lits de réanimation, je pense que ça les tue, quoi. Ils se disent, mais on va jamais s'en sortir, c'est pas possible, ça va être ça combien de temps? Ils sont en protocole Covid depuis 2 ans, c'est très compliqué, ils ont dû se battre avec leurs collègues qui voulaient pas se faire vacciner, il y en a plein qui se sont barrés parce qu'ils en ont marre de cette situation. Enfin, c'est, ne serait-ce que pour ces gens-là, je pense que c'est important de se faire vacciner pour réduire leur charge de travail et faire en sorte qu'on n'ait pas de perte de chance pour d'autres maladies. Ça, c'est une considération hygiéniste. J'ai entendu beaucoup de gens dire bah oui, mais ça c'est la philosophie du moment. Mais à l'époque, il y avait des maladies, on mourait, et c'est comme ça, il faut accepter. Bah oui, on accepte, mais c'est difficile de se priver de quelque chose qu'on connaît. Quand tu peux te faire soigner pour telle ou telle petite pathologie au quotidien, tu vas avoir beaucoup plus de mal de t'en priver. Et c'est vers ça qu'on va aller. La santé, c'est compliqué, et on va peut-être avoir des pertes de chance ou des séquelles de choses qu'on connaissait pas. Et donc moi j'ai un point de vue un peu hygiéniste parce que je suis dans la santé. La maladie, c'est quelque chose de très difficile à vivre et ça a plein d'impact. En l'occurrence, c'est traité de façon capitaliste, c'est-à-dire que on fait en sorte que les gens soient pas malades pour qu'ils continuent d'aller bosser, pour que l'économie continue, qu'on puisse faire de la croissance, etc. Enfin, on est quand même là-dedans. Là, l'histoire de raccourcir les temps d'isolement, etc., c'est uniquement pour ça, c'est pour qu'il y ait du pognon qui rentre dans la machine. d'un point de vue humaniste, je suis pas sûr que la maladie soit quelque chose de souhaitable, en fait, finalement. Et donc, bon, on peut se dire, bon, bah, allons-y, mourons, quoi. Mais je suis pas sûr qu'on soit plus heureux en laissant faire les choses.
Voilà les amis, c'est sur ces mots de mon pote Jean-Baptiste le pharmacien que se termine cette émission. À réécouter sur notre site, polymixetlavoixoff.com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut,
terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM.